Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. John Shedd est titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique. Il nous propose cette année de suivre Plutarque pour une promenade imaginaire dans la Rome de la deuxième moitié du premier siècle. Tout lecteur a toujours un vrai plaisir à retrouver Plutarque, dont la vie coïncide parfaitement avec les idées, lesquelles ouvrent sur les multiples objets que sa grande curiosité et son savoir encyclopédique ont explorés. Philosophe, historien, écrivain, Plutarque a réussi à être à la fois un homme assumant de hautes responsabilités, tout en restant attaché à Chéronée, la petite ville de Béotie, où il était né vers 46. Cet érudit, bienveillant, qui pratiquait l'amitié savante avec bonheur et qui mourra vers 125, était au centre de la vie intellectuelle de son temps. Il fut aussi un grand voyageur. On connaît surtout de son œuvre Les vies parallèles, mais il a beaucoup écrit. Cette année, c'est avec En main, une œuvre peu connue de Plutarque, Les questions romaines, que John Shedd va nous guider dans la Rome antique. Ce texte surprenant, fait de questions et de réponses qui sont elles-mêmes autant de questions, a intrigué ses lecteurs. Quelle est en effet la nature de ce livre? Ne serait-il pas, par exemple, un ensemble de fiches de lecture, des notes érudites pour un futur livre? Les questions romaines sont une suite d'énigmes dont la structure embarrasse le lecteur. John Shedd, lui, a une hypothèse et des interprétations que ses cours vont déployer et vérifier devant nous.
La promenade que nous ferons pendant ce cours ne s'inspirera pas des témoignages archéologiques, épigraphiques ou littéraires concernant tel ou tel lieu de culte bien conservé. Nous ferons notre pérégrination en tenant un seul livre en main, Les questions romaines de Plutarque. Vous auriez d'ailleurs intérêt à copier une carte de la zone qui va du Tibre au Capitole et au Forum romain et de vous procurer l'une des éditions ou traductions de ce texte, soit dans la version de la collection des universités de France, procurée par Jacques Boulogne, dans le tome 4 des œuvres morales de Plutarque. Boulogne appelle ce traité les étiologies romaines, soit dans la traduction publiée en 1999 dans le livre de poche par Michel Nouillan, Jean-Marie Payet et Pascal Payen sous le titre grec et romain en parallèle. Il s'agit au sens littéral d'une suite de questions auxquelles répondent presque toujours d'autres questions. Plutôt que étiologie romaine ou même raison romaine, qui serait un beau titre mais serait ambigu lui aussi, j'appellerais donc banalement l'ouvrage Questions romaines comme on l'a toujours fait. Je ne reprendrai pas tous les problèmes liés à la datation de cet ouvrage ni aux sources. Qu'il nous suffise de retenir que les questions romaines appartiennent aux œuvres de maturité de Plutarque, et qu'elles ont sans doute été composées après la mort de Domitien, de l'empereur Domitien, donc après 96 de notre ère, puisque certaines remarques faites dans l'ouvrage sur cet empereur auraient été sans doute dangereuses à faire sous son règne, à publier sous son règne. Nous aurons l'occasion de voir dans le détail tel ou tel aspect de la culture gréco-romaine de Plutarque, son mode de fonctionnement, qui exprime en quelque sorte le consensus des élites pour la gestion commune de l'Empire, qu'ils considèrent comme le leur, malgré les problèmes qu'ils pouvaient y avoir dans les relations avec les Romains proprement dit. Ce qui m'intéresse dans cette lecture, ce n'est pas cela, c'est tout à fait autre chose. Les questions romaines sont en effet un livre bien étrange. C'est un ouvrage relativement court qui représente 67 pages dans la collection publiée par l'association Guillaume Budet et pose 113 questions suivies d'un nombre variable de réponses. Pour vous donner une idée de la façon dont ce livre est écrit, je prends un exemple. La 42e question est celle-ci. Et comme je l'ai dit, les traductions que je vous donnerai sont généralement personnelles. mais tiennent évidemment compte des traductions existantes, celles de Rose, celles de Boulogne ou de Payet-Nouillan. Voilà donc la question 42. Pourquoi se servent-ils du temple de Cronos comme trésor des deniers publics et comme dépôt des contrats? Ils, c'est les Romains, évidemment. Est-ce parce que l'opinion et la tradition ont retenu que sous le règne de Cronos, il n'y avait ni arrogance ni injustice parmi les hommes, mais bonne foi et justice? Ou bien parce que ce dieu est l'inventeur des fruits de la terre et a conduit vers l'agriculture? En effet, c'est cela que signifie la faucille que porte ce dieu en général. C'est cela que signifie la faucille et non pas, comme l'a écrit Antimachos sur la foi d'Hésiode, et il cite, « coupant obliquement avec la serpe les parties de son père Uranos, l'Acmonide, Cronos le velu, s'est institué roi. » Or, l'abondance de fruits et leur distribution constituent l'origine de la monnaie. C'est pourquoi ils ont fait de leur auteur également le gardien de la prospérité. La preuve en est donnée par le fait que les réunions appelées Nundinae, qui se déroulent tous les 8 jours au forum, soient considérées comme consacrées à Cronos, Saturne. Car l'excédent de fruits constitua le début de la vente et de l'achat. Ou bien, est-ce que ce sont là des choses trop anciennes, et est-ce que le premier qui désigna le sanctuaire de Cronos comme trésor, après le renversement des rois, ne fut pas Valerius Publicola, qui pensait que cet endroit était bien défendu, bien visible, et difficile à être attaqué par surprise? J'ai toujours trouvé une certaine difficulté à comprendre cette succession étrange de questions et de réponses contradictoires. Quand on découvre cet opuscule, on ne manque pas de se demander de quoi il s'agit. D'un livre inachevé ou d'un livre qui possède une structure spécifique? Les doutes se renforcent quand on considère la manière dont les modernes, dont nous modernes, nous utilisons ce livre. Généralement, en effet, nous nous contentons de prendre en considération une seule question et dans celle-ci, une seule des réponses données par Plutarque, comme s'il s'agissait d'affirmations, des affirmations qu'ils isolent de tout leur contexte. C'est en s'appuyant sur ce type d'argument que les modernes tentent ensuite de reconstruire une institution donnée. Quelle peut être, dans le cadre d'une démonstration historique, la valeur d'un témoignage de ce type? Peut-on sincèrement attribuer la naissance du trésor de Saturne à Valerius Publicola, sur la foi de la dernière hypothèse de la question 42 que nous venons de lire? C'est pour le moins hasardeux. Les questions romaines ne sont toutefois pas une œuvre complètement isolée. Déjà Herbert Rose, dans son édition, n'est-ce pas, de 24, rappelait que le genre étiologique dérivait de la philosophie péripatétique, c'est-à-dire aristotélicienne. Parmi les œuvres de Plutarque qui nous sont parvenues, ce genre est employé dans les questions romaines, bien sûr, dans les questions grecques, mais aussi dans les questions naturelles. D'autre part, la technique qui consiste à donner à une même question des réponses et des interprétations multiples et divergentes est très répandue chez les anciens, qu'il s'agisse des érudits, des antiquaires, des grammairiens ou des poètes, même s'ils composent généralement différemment leurs livres. L'ouvrage de Plutarque n'est donc pas original quant à sa substance. Ce qui demeure surprenant, c'est sa structure, c'est sa forme. Quelle peut être l'unité d'un livre qui repose sur une suite de questions pourvues chacune d'un nombre plus ou moins important de questions nouvelles en guise de réponse? S'agit-il d'un ensemble de fiches, comme le pensait Herbert Rose, toujours lui, destiné à une œuvre littéraire plus élaborée? Ou bien s'agit-il d'un livre inachevé, ou d'un livre achevé, pardon, inachevé ou achevé? Rose écrivait, en effet, à la page 48 de son commentaire, de son édition, que la nature désordonnée, scrabby, dit-il, de l'ouvrage introduit à conclure qu'il représente une sélection des notes de lecture de Plutarque en vue de la rédaction des Vies parallèles. Ces fiches de lecture désordonnées, auraient été publiées indépendamment avant l'achèvement de la série des Vies. En 1992, Jacques Boulogne y voit plutôt une technique de, je cite, « fondue par diffusion » qui éparpille les ensembles thématiques en les cassant systématiquement. Quand j'ai commencé à travailler sur cet ouvrage avec mon ami Jesper Svenbro en 1990, ces explications de la structure de l'ouvrage ne me satisfaisaient pas. D'abord, il s'agit indéniablement d'un ouvrage fini, ce que personne d'ailleurs n'a mis en question, au moins depuis. Plutarque renvoie en effet à deux reprises dans les vies parallèles aux questions romaines. Dans la vie de Romulus 15-7, à propos de l'usage qui consiste à diviser les cheveux de la mariée avec un fer de lance, il écrit « De ceci nous avons parlé plus longuement dans les questions, Périhon, Epipléon, Entois, Aitiois, les Aitia, et Rekemen. » Et dans la vie de Camille 19-2, à propos des jours considérés comme néfastes, l'auteur précise que ce sujet est traité avec davantage de soin dans les questions romaines. Ento peri aition romaicon, donc encore Aitia romaica ou sur les Aitia romains, des romains, epimelesteron eiretai, avec plus de soucis, de soins. Dans les deux cas, le problème est effectivement développé de manière plus détaillée dans les questions romaines que dans les deux vies de Romulus et de Camille. Les deux citations prouvent que pour leur auteur, les questions n'étaient ni un fichier ni une œuvre inachevée. Plutarque les cite comme l'un de ses livres, et ce livre semble, à ses yeux, remplir sa fonction. L'idée que le renvoi se fait à un livre incomplet ou à un fichier serait absurde. Certes, nous pourrions considérer que les deux renvois seraient des interpolations d'érudits du Moyen-Âge. Carmineam Polo, dans son commentaire de la vie de Romulus, a pensé à cette objection, mais il a souligné que Plutarque ne mentionne pas les questions romaines dans un passage qui précède la citation que j'ai extraite de la vie de Romulus, 15-7. C'est juste avant, n'est-ce pas ? Et dans ce passage, il est question du cri nuptial Thalassio. Les Romains, quand ils se mariaient, quand on conduisait la mariée chez le marié, les gens criaient Thalassio. C'est une sorte de cri rituel. Quel est le sens de ce cri ? Plutarque en parle dans la vie de Romulus et dans les questions romaines, comme vous verrez. Or, dans les questions romaines aussi, ce cri est examiné, mais cette fois-ci, il est vrai, de manière beaucoup plus succincte que dans la vie de Romulus, et cette fois-ci, et sans aussi la référence au grammairien royal Juba de Maurétanie ou à Sextus Sulla, deux érudits que Plutarque cite à propos des traditions concernant ces cris. Et cette fois-ci, on constate que s'il y a copiste, il n'a pas fait de renvoi. Les copistes font en général systématiquement preuve de l'érudition, ils font des relations entre les différents ouvrages. Normalement, ils auraient dû également renvoyer aux questions romaines à propos de Thalassio. Mais ici, où effectivement dans la vie de Romulus le passage est plus développé, ils ne le font pas. Cette différence démontre à l'avis d'Ampolo, et je le suis parfaitement, que les deux autocitations évoquées tout à l'heure remontent bien à Plutarque et non à des scribes médiévaux, et que donc les questions romaines sont un livre achevé. Les interprétations présentées par Plutarque dans les questions romaines sont parfaitement identiques à celles qu'il propose dans ses autres livres, et plus généralement à celles que l'on peut trouver dans l'œuvre de tous les autres érudits et grammairiens de son époque. De nombreux éléments ou suites d'arguments qui sont utilisés dans les questions romaines reviennent dans les autres traités, dans les vies parallèles, j'ai déjà donné un exemple, soit isolés, comme explication à privilégier, soit en série, comme dans les questions romaines, avec l'indication qu'il s'agit de l'opinion de tel ou tel auteur plus ancien. L'exemple concernant le cri Thalassio, voilà un exemple, tiré de la vie de Romulus, en offre une illustration. Parfois aussi, Plutarque rapporte dans d'autres ouvrages des interprétations diverses de celles qu'il réunit dans les questions romaines, comme c'est encore le cas pour le cri Thalassio. Par conséquent, Malgré l'accumulation des réponses, il n'est pas nécessaire de considérer les questions romaines comme une somme de toutes les interprétations possibles, ni de toutes celles que Plutarque connaissait. C'est ça qui est aussi perturbant. Nos prédécesseurs ont déjà constaté que les diverses questions sont construites suivant un schéma fixe. On verra à ce propos l'excellent exposé de Jacques Boulogne dans l'encyclopédie Aufstieg und Niedergang. L'interprétation n'est jamais présentée comme la réponse définitive au problème discuté. À la question posée, Plutarque répond en fait par un nombre variable d'autres demandes dont aucune n'annule la précédente. Les questions-réponses s'opposent ou se juxtaposent comme autant de points de vue exposés par les interlocuteurs d'un débat virtuel. Ce procédé est déroutant, mais il suffit de comparer les questions romaines avec les problèmes de Banquet, un autre ouvrage de Plutarque, souvent appelé aussi propos de table, pour s'apercevoir que les questions romaines ne sont pas diverses des autres œuvres de Plutarque. Elles sont une formulation originale du même type d'argumentation. Prenons un exemple. La question 75 concerne le problème suivant. Pourquoi n'éteint-on pas les lampes, mais les laissait-on s'éteindre seules? Trois réponses en forme de questions sont données dans l'ordre suivant. 1. Est-ce parce que les Romains vénéraient la lampe en tant que parente et sœur du feu inextinguible et immortel? 2. Ou bien, est-ce aussi un symbole pour enseigner qu'il ne faut ni détruire ni supprimer ce qui est vivant quand il ne cause aucun dommage, puisque le feu est semblable à un être vivant? Car il a besoin de nourriture, il se meut de lui-même et quand on l'éteint, il émet un son comme si on le tuait. 3. Ou bien cette coutume nous enseigne-t-elle qu'il ne faut détruire ni le feu, ni l'eau, ni aucun des autres biens nécessaires quand nous en avons suffisamment, mais qu'il faut laisser ceux qui en ont besoin les utiliser et les abandonner aux autres quand nous n'en avons plus besoin? Or, le problème 4 du 7e livre des problèmes de Banquet traite du même sujet exactement. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une simple énumération de demandes et de réponses, mais du récit d'un débat, d'une discussion, d'une conversation. Au début de la discussion, Plutarque, enfin le narrateur, raconte que Mestrius Florus, son protecteur, aimait les coutumes anciennes et qu'il ne voulait jamais que ses esclaves débarrassent entièrement sa table et qu'il y laissait toujours un peu de nourriture. Florus intervient alors pour rappeler que son père et son grand-père également observaient cette coutume et ne faisaient pas non plus d'ailleurs éteindre les lampes, contrairement à la mauvaise habitude de l'époque présente, qui est toujours décadente dans ces discussions, bien sûr. L'énoncé du problème est coupé par une intervention cynique d'un des convives, Eustrophius, qui souligne que les esclaves auraient de toute façon volé l'huile économisée si on avait éteint la lampe. Ensuite, la discussion redevient sérieuse et Florus invite ses amis à examiner la question, le problème. Trois interlocuteurs prennent la parole, Caesernius, Lucius et le narrateur, qui suivent exactement l'ordre des trois arguments présentés dans la 75e question à propos de la lampe. L'unique différence réside dans le fait que dans les problèmes de Banquet, les réponses sont plus développées et qu'à partir du troisième argument, les invités donnent en outre diverses explications de la coutume de laisser toujours de la nourriture sur la table en renouant ainsi avec le début de la discussion. Encore que la 64e question, où il est encore une fois question de cela, mais pour les tables, est suivie d'une question sur une lampe qu'on éteint. Donc vous voyez qu'il y a la même séquence que dans les propos de table. Alors que dans les problèmes de Banquet, l'usage concernant la lampe est inséré dans une discussion sur la nourriture laissée sur la table, dans les questions, il est isolé. Et puis, dans la question 64, on a uniquement, chez Plutarque, un débat sur la nourriture, sur la table, mais il y a quand même une autre question qui suit, qui concerne les lampes. Et rien n'empêche d'ailleurs de supposer que dans notre 75e question, Plutarque ait pu ajouter une quatrième interprétation à peu près en ces termes, ou est-ce comme dans une coutume qui voulait que les Romains laissent toujours de la nourriture sur la table après le repas, afin que leurs esclaves en bénéficient. Donc comparé au problème de Banquet, les questions romaines apparaissent comme un traité réduit, comme le degré zéro d'un débat spéculatif entre plusieurs auteurs, comme les dialogues platoniciens et ceux de Plutarque même. Par leur concision schématique, les questions romaines révèlent encore plus clairement les caractéristiques rhétoriques des interprétations données par les anciens de leurs us et coutumes. Au lieu de susciter l'explication définitive, toute demande déclenche la proposition d'autres questions qui ne se neutralisent pas progressivement l'une l'autre. La comparaison des questions de ce livre avec celles qui sont formulées par Plutarque dans d'autres livres, dans les propos de table ou dans les vies parallèles, ou alors celles qui sont formulées par Varron, par Ovide ou d'autres amateurs des coutumes anciennes, eh bien cette comparaison montre que les interprétations données dans les questions romaines sont toujours à considérer comme un choix parmi les explications possibles, qui ne vise jamais à être exhaustif, je l'ai déjà dit. Conformément à la tradition aristotélicienne, la solution est toujours laissée ouverte. Les explications visent l'exhaustivité, mais sans y parvenir, car dans l'étude du peuple romain, ainsi que Plutarque le fait dans cet ouvrage, il ne peut y avoir de certitude, et l'auteur ne peut tenir qu'un discours probabiliste, qui demeure ouvert. Comme Jacques Boulogne l'écrit, Plutarque utilise une pluricausalité ouverte. De ce fait, il peut poser le plus grand nombre de questions possibles en fonction d'approches variées, selon que, d'après la méthode de l'école aristotélicienne, il s'attache à la forme, à la matière, à l'agent ou à la finalité, pour citer encore Boulogne. Dans la construction des interprétations, Plutarque recourt en outre aux oppositions de toute nature, entre masculin et féminin, entre mortel et immortel, entre temps et espace, entre action et passivité, entre les quatre éléments naturels, et ainsi de suite. Parfois, Plutarque exprime des préférences, par exemple par l'adverbe « plutôt », « malon », en fonction des causes, des explications données, la caractériologie, l'éthique, l'étymologie, l'histoire, la mythologie, la physique, la théologie, etc. Évidemment, les explications éthiques, physiques, philosophiques et théologiques ont généralement sa préférence, mais une préférence qui n'a pas poussé Plutarque à supprimer les autres explications. Toutes participent à l'explication et ajoutent leur lumière à l'ensemble des éclairages jetés sur telle ou telle coutume romaine. Il en découle que quand nous utilisons les questions romaines, il convient toujours et avant tout de tenir compte des objectifs du traité et de son jeu, avec tout le registre des interprétations possibles. Pour donner un exemple de cette manière de raisonner, nous pouvons lire la première question. Il s'agit, dans cette question, du fait que la mariée touchait l'eau et le feu au moment du mariage. Pourquoi font-ils toucher du feu et de l'eau à la nouvelle mariée? Est-ce parce que de ces deux choses, considérées comme des éléments et des principes, le feu est masculin, l'eau féminine, et que l'un fournit le principe du mouvement, l'autre la puissance du substrat et de la matière? Ou bien est-ce parce que le feu purifie et que l'eau nettoie, et que la nouvelle épouse doit demeurer pure et sans tache? Ou bien, parce que de même que le feu sans humidité dépérit et se dessèche, et que l'eau sans chaleur est stérile et inactive, le masculin et le féminin sont inefficaces l'un sans l'autre. La combinaison des deux accomplit, au contraire, pour les époux, la vie en symbiose? Ou bien, est-ce qu'ils ont l'obligation de ne pas abandonner l'un l'autre, mais de partager tous les coups du sort, fussent-ils destinés à ne partager ensemble rien d'autre que du feu et de l'eau? L'interprétation, vous l'avez vu, porte sur deux éléments, l'eau et le feu, ainsi que sur le rite de toucher ces deux éléments. À l'arrière-plan des explications se trouve d'un côté la référence à l'idée platonicienne ou aristotélicienne de la non-division des sexes, de la koinonia, la communauté des sexes, avec la soumission du sexe féminin au sexe masculin, telle qu'elle est décrite dans les préceptes conjugaux de Plutarque, un autre traité. De l'autre côté, on trouve le thème de la complétude du couple. La première question-réponse ignore le rite et regarde uniquement l'eau et le feu. L'interprétation se fonde sur le genre masculin du feu, en latin ignis, et le genre féminin de l'eau, aqua, contrairement au grec où il s'agit de deux neutres. Cela montre d'ailleurs, soit dit en passant, que Plutarque s'inspire ici d'une source latine, vraisemblablement Varron, et qu'il la comprend. Donc l'eau et le feu représentent la nature respective de l'homme et de la femme. Ils désignent les mariés, mais ne font aucune allusion, aucune allusion n'est faite à leur union. La deuxième interprétation introduit le rite. Dans cette lecture, seule la femme qui agite est en cause. Dans la troisième exégèse, la femme est envisagée en tant qu'elle touche deux éléments et signifie « construit ainsi le couple ». À cette interprétation philosophique suit une quatrième exégèse qui suppose que le geste représente de manière non pas philosophique, mais morale, la qualité du couple. Et c'est ainsi que cela continue. Les termes de la question initiale sont généralement décomposés en éléments qui sont ensuite examinés séparément ou ensemble par rapport à une théorie philosophique ou comme geste passif, actif, réalisant ou représentant quelque chose avec un mélange de traditions et de références romaines et grecques. Nous verrons à l'occasion d'autres illustrations de ce procédé rhétorique de construction des questions-réponses. Mais je crois qu'il faut préciser tous ces traits du texte avant de nous lancer dans notre pérégrination, sinon il faudra à chaque fois l'expliquer. Si nous rapprochons les questions romaines des problèmes de banquet ou des vies parallèles, nous devons conclure qu'il s'agit d'un livre qui est rédigé suivant les mêmes règles rhétoriques que les autres œuvres de Plutarque, à la seule différence que, dans les questions romaines, il n'existe pas de mise en scène, de récit ou de description, comme celle d'une discussion, par exemple, comme dans les propos de table. Dans les vies parallèles, c'est d'un récit qu'il s'agit, donc la structure est claire. Cette sobriété des questions romaines n'implique toutefois pas l'absence de tout propos procédé rhétorique. Au contraire, l'analyse détaillée révèle qu'il s'agit d'un livre dans lequel l'auteur n'explicite que les éléments indispensables de l'argumentation, en laissant implicite tout le reste, notamment la structure du texte. Seul un lecteur averti est en mesure de saisir cet arrière-plan. Tout cela, le lecteur s'en aperçoit s'il lit les questions romaines comme un livre, de façon linéaire, et non pas comme on le fait généralement comme un dictionnaire, où on prend telle question, où il y a l'objet qui vous intéresse, vous le lisez, et puis vous rangez le livre, vous ne regardez pas ce qui précède ni ce qui suit. Et quand on lit le texte de façon linéaire, on se rend compte qu'il existe des liens entre les diverses questions. La suite des questions obéit à une intention. Le livre possède une structure. On a déjà noté auparavant que des liens existaient entre certaines questions et que quatre thèmes, en gros, se partageaient l'œuvre, le rituel, la parenté, les institutions, le calendrier. Mais ces liens étaient relevés uniquement entre un certain nombre de questions, quand ils étaient évidents, comme par exemple pour les questions 34 et 35, où le lien est établi par le personnage mythique Acca Larentia. Il est question d'elle dans la question 34, et la question 35 porte sur Acca Larentia, donc le lien est évident. Donc ça, on l'avait déjà relevé. L'ensemble demeurait donc morcelé, ou plutôt organisé entre quelques noyaux. Herbert Rose pensait que cet apparent désordre était un procédé de style destiné à rompre la monotonie de la lecture. Jacques Boulogne, pour sa part, considère, je cite, « qu'apparemment les thèmes se suivent au gré d'associations d'idées très lâches, sans plan général, cherchant à procéder à des regroupements, à des noyaux, sur lesquels sont ensuite venues se greffer d'autres considérations, des digressions, selon le libre jeu de diverses associations. » Récusant l'explication de Rose, Boulogne propose donc de considérer pour sa part qu'un thème sert de structure générale au traité, le mariage. Ce thème qui revient périodiquement aux questions 1, 2, 29, 31, 65, 86, 87, 105 et 108. Ce retour régulier du mariage dans l'ouvrage des questions romaines paraît être programmé à Jacques Boulogne et constituer le principe structurant de l'œuvre, de même que le mariage joue, d'après Plutarque, un rôle structurant dans la société romaine. Les observations de Jacques Boulogne sont exactes, mais elles ne suffisent pas, je crois, pour expliquer la structure de l'œuvre. On ne voit pas pourquoi Plutarque ne regrouperait pas mieux les différents thèmes. Il n'existe pas seulement quelques noyaux de deux, trois questions sur lesquelles viennent se greffer ensuite une foule de digressions. Si les noyaux étaient plus importants ou réapparaissaient toutes les cinq ou dix questions dès la digression finie, eh bien l'hypothèse serait viable, mais tel n'est précisément pas le cas. Le mariage est certes important dans l'image que Plutarque veut donner de la société romaine, et Jacques Boulogne a tout à fait raison d'insister sur ce thème, mais parmi d'autres. Mais il ne suffit pas pour structurer l'ensemble de l'ouvrage. Car plus on lit cet ouvrage, plus on se rend compte qu'il est très soigneusement construit dans le détail, et qu'il est donc probable qu'il possède aussi une structure générale implicite, beaucoup plus forte et beaucoup plus continue. Cette conclusion s'impose lorsqu'on étudie systématiquement les transitions et les passerelles entre questions. L'analyse révèle la construction raffinée de l'ouvrage. On peut en effet dire que toutes les questions de ce traité sont liées. Quels sont les liens qui existent entre les différentes questions ? Dans 53 questions sur 113, ces liens sont manifestes, puisqu'il s'agit en fait de la continuation du même argument. Ainsi, les deux premières questions concernent le mariage. Diane est mentionnée à la fin de la deuxième question et sert de passerelle vers les deux questions suivantes qui concernent son temple. Les questions 5 à 9 traitent de la famille, les questions 10 à 14 du culte et des vêtements, les questions 72 et 73 concernent les augures, les questions 101 à 104 les enfants, et les cinq dernières questions le flamine de Jupiter. Ces liens sont évidents, et ce ne sont bien entendu pas seulement ceux qui nous intéressent ici. Et ils sont trop isolés pour résoudre notre problème. Car quelques ensembles de questions qui exposent divers aspects du même problème dans un ordre plus ou moins fortuit ne suffisent pas pour parler d'une structure ferme et cohérente. Je l'ai déjà dit. Je veux démontrer que le procédé qui relie les questions du livre est systématique, même si le lecteur moderne ne le perçoit pas à première lecture. C'est ce lien qui constitue l'un des principes structurants des questions romaines. Passons maintenant en revue les différents liens plus ou moins importants qui organisent les questions romaines. Certaines questions, comme celles que je viens de citer, sont consacrées au même sujet, et donc les liens sont évidents. Je n'y reviens plus. Plus intéressants pour mon propos sont tous les liens qui se profilent à l'arrière-plan. Un certain nombre de liens sont d'ordre thématique. Prenons des exemples. Le calendrier sert de pont entre la 34e et la 35e question. Il s'agit d'Acalarentia, nous en avons déjà parlé. La 34e question concerne la date des Parentalia, la fête des morts annuelle, qui tombait normalement en février, sauf pour le consul de 138 avant Jésus-Christ, Decimus Brutus, qui, d'après Cicéron, les célébrait en décembre. Est-ce que, puisque c'est la coutume commune de sacrifier aux défunts le jour mourant et le mois finissant, il n'a pas raison d'honorer aussi les morts le dernier mois et au tournant de l'année, car décembre est le dernier mois? Ou bien, comme il s'agit d'honneurs rendus à des dieux souterrains, est-il conforme à la saison d'honorer les dieux chtoniens quand tous les fruits sont récoltés? Ou bien, convient-il de se rappeler le plus de ceux d'en bas quand on remue la terre au début des semailles? Ou bien, ce mois ayant été consacré à Cronos par les Romains, estime-t-il que Cronos appartient aux dieux d'en bas et non à ceux d'en haut? Ou encore, puisqu'on célèbre alors une très grande fête, celle des Chronias, et que celle-ci passe pour compter le plus de banquets communs et de réjouissances, lui a-t-il paru correct d'en attribuer en quelque sorte les prémices aux défunts? Ou bien enfin, tout cela n'est-il pas entièrement faux, que Brutus et que seul Brutus faisait ses offrandes en ce mois? Car en décembre, on offre également un sacrifice funéraire à Larentia, et on verse des libations sur son tombeau. Dans la dernière question-réponse, à la question 34, Plutarque se demande, après plusieurs explications, si ce n'est pas tout simplement une erreur de penser que Decimus Brutus était le seul qui célébrait les Parentalia en décembre. Et il cite comme argument les libations que les Romains faisaient ce jour-là auprès de la tombe d'Acalarentia. Cette pirouette peut surprendre, d'autant plus que l'argument n'est pas de la même qualité que les précédents, car on ne peut pas mettre sur le même plan les rites domestiques funéraires de Decimus Brutus et les Parentalia célébrés par les prêtres au cours des Larentalia. Pour comprendre, il suffit ou il faut lire la question suivante, car la 35e question est consacrée au mythe d'Acalarentia. L'argument assez superficiel, vous me l'accorderez, présenté à la fin de la 34e question, a donc pour seule mission de servir de transition vers le personnage d'Acalarentia. Faut-il donc considérer cette explication comme une erreur, comme une preuve que Plutarque ne connaissait pas les coutumes romaines ou que ses arguments ne présentent aucun intérêt? Aucunément. Le rapport artificiel, certes, mais c'est la loi du genre, que Plutarque établit entre la tradition familiale de Decimus Brutus et le sacrifice sacerdotal des Larentalia du 23 décembre, est moins dû à l'incompétence ou à la légèreté de Plutarque qu'à sa technique littéraire. La construction est tellement claire qu'il ne peut y avoir de doute. Et cela, on s'en rend compte en examinant la question dans le détail, parce que je n'ai encore rien dit là. Une des séquences de questions-réponses est particulièrement nette. Une première hypothèse au début de la question 34 considère qu'il était normal que les morts soient honorés en décembre, puisque ce mois était le dernier mois de l'année ancienne. Pour découvrir la technique de Plutarque, il suffit de lire ce qui, ou de relire ce qui suit en faisant bien attention aux mots. Ou bien, comme il s'agit d'honneurs rendus à des dieux d'en bas, est-il conforme à la saison d'honorer les dieux chtoniens quand tous les fruits de la terre, en grec « karpoi », sont récoltés? Ou bien, convient-il de se rappeler le plus de ceux d'en bas quand on remue la terre en commençant l'ensemencement, le sporos? Ou bien, puisque ce mois a été consacré à Cronos par les Romains, estime-t-on que Cronos appartient aux dieux d'en bas et non à ceux d'en haut? Ou encore parce qu'on célèbre alors une très grande fête, celle des Chronias, et que celle-ci passe pour compter le plus de banquets communs et de réjouissances, a-t-il paru correct d'en attribuer en quelque sorte les prémices aux défunts? Enfin, la dernière proposition consiste à tout annuler comme par un clin d'œil et à envisager que tout le problème repose sur une erreur. Regardons maintenant de plus près. Au début, Plutarque évoque les carpoi, en latin sata. Ensuite, le sporos, le temps des semailles, en latin satio. De là, on passe à Cronos, à notre Saturne, évidemment, dont les érudits romains dérivaient le nom a Saturnibus, des semailles. Cet enchaînement implicite, Sata, Satio, Saturnus, fondé sur Sat, n'est-ce pas, qui n'a aucun sens en grec, carpoi, sporos, chronos, ça n'a aucun sens. Donc c'est encore une fois un jeu étymologique latin. Cela montre une fois de plus que Plutarque n'ignorait pas le latin comme on a eu tendance à le prétendre, et fournit ensuite la preuve qu'il s'agit en tout cas d'utiliser avec habileté une source qui jouait de cette manière-là, et en outre le calendrier romain. La question parle du mois de décembre. Or, le 12 décembre, on célébrait à partir d'Auguste, donc bien sûr à l'époque de Plutarque aussi, l'anniversaire du temple de Consus in Aventino. Consus était le dieu des récoltes, des sata déposés dans les réserves. Le 15 décembre, on fêtait les Consualia, la fête annuelle du dieu Consus. On peut présumer que Plutarque dérive de ces données calendaires l'argument de la fin des récoltes et des travaux agricoles, tout comme il passe ensuite au semai, sationes, et au labour en relation avec l'anniversaire du temple de Tellus, de la terre, qui tombe le 13 décembre. Enfin, toujours en suivant le calendrier, la fête suivante était celle des chronia, des saturnales, qui commençait le 17 et s'achevait le 23 décembre, jour des Larentalia. Autrement dit, la question est construite sur une double structure étymologique d'une part, autour de Sata, calendaire de l'autre, pour conduire vers Acalarentia, vers le 23 décembre. On a l'impression d'ailleurs que toute la question a pour fonction d'opérer la transition entre ce qui se précède et la suite. On peut même aller jusqu'à se demander si Plutarque n'a pas choisi le mois de décembre, le 10e, et même Decimus, Brutus, le 10e, n'est-ce pas, pour conduire vers Acalarentia. Donc toute une stratégie littéraire, rhétorique, pour aller vers ce thème. D'autres groupes de questions se fondent également sur des séquences de fêtes, dans les questions 45 à 48. La question 45 est la suivante. Pourquoi, lors de la fête des Veneralia, c'est-à-dire des Vinalia, verse-t-on une grande quantité de vin du temple d'Aphrodite ? Je dis une fois pour toutes, n'est-ce pas, que je traduis, comme Boulogne d'ailleurs et les autres traducteurs, que je ne traduis pas les mots grecs du texte. Aphrodite, c'est bien entendu Vénus, mais je traduis Aphrodite, n'est-ce pas, parce que c'est comme cela que les Grecs et Plutarque écrivaient. Dans certains cas, il emploie des transcriptions latines, et je vous le dirai toujours. Donc, 46. Pour quelle raison les gens d'autrefois maintenaient-ils continuellement ouvert le temple de Horta ? 47e question. Pourquoi Romulus a-t-il construit le temple de Héphaïstos à l'extérieur de la ville ? Enfin, la 48e. Pourquoi couronne-t-on les chevaux et les ânes lors de la fête des Consualia en leur permettant de ne rien faire ? 4 divinités sont mentionnées. Vénus, Horta, Vulcain et Consus. Donc un ensemble de questions consacrées à 4 divinités qui ont l'air d'être mentionnées sans aucune raison précise. On a l'impression du désordre dont parle notre ami Rose. Or, il suffit de sortir son calendrier religieux du mois d'août pour comprendre que la raison de la présence de cet ensemble de divinités à cet endroit, ce sont les dates de leur fête. Les Vinalia ont lieu le 19 août. Le sacrifice à Horta, Hora, qui est introduite dans le cours de la 46e question, a lieu le 23 août. Les Volcanalia, le même 23 août. Et enfin, les Consualia, le 21 août. Pour des raisons, je parlerai, en lisant ces questions, de la raison de ce léger déplacement des Consualia. Mais vous verrez que c'est tout à fait logique. Donc l'un des liens entre ces éléments, ce sont les fêtes publiques de la fin du mois d'août. Il existe un désordre dans la suite des fêtes, je l'ai déjà dit, mais on verra que ce n'est pas important. Un dernier exemple, les questions 55 et 56 mettent encore en scène deux fêtes qui se suivent. Les Quinquatrus Minusculae du 11 janvier, sic, c'est la date que donne Plutarque, et les Carmentalia du 15 janvier, la fête de Carmenta. Dans la question 55, Plutarque se trompe manifestement, car les Quinquatrus ne tombe pas le 11 janvier, mais le 11 juin. Son erreur peut être due au fait qu'il a pensé en fait au Matralia du 11 juin, qui était également un culte matronal, comme celui de Carmenta, et qui les a convendus avec les quinquatrus, ou les vêtements de femmes, et la déesse Aurore, Mater Matuta, vous le verrez, jouait un rôle. Peu importe pour notre propos. On voit de toute façon que Plutarque a construit l'ordre des questions en fonction des fêtes de la supposée de la mi-janvier, qui le conduisent des joueurs de flûte de la question 55 vers la déesse Carmenta dans la question 56. Un autre lien thématique est constitué par l'utilisation d'une même source pendant plusieurs questions. On a déjà évoqué le parallélisme entre les questions 64 et 65 et le problème 4 du livre 7 des problèmes de banquet. Ainsi que nous l'avons vu, la question 4 des problèmes de banquet s'attache à deux coutumes, celle de ne pas laisser vide la table et celle de ne pas éteindre les lampes. La question 65 traite uniquement de la lampe, or un peu plus haut, la question 64, vous vous rappelez, examine la coutume de ne pas laisser emporter la table vide et en donne trois explications fournies également dans les problèmes de banquet. La question 65 concerne la lampe, ou plutôt le fait d'éteindre la lampe pendant la nuit de noces. Suivant notre reconstruction de la séquence des questions, nous le verrons, la question 66 traite du cirque Flaminius et dépend donc apparemment d'une toute autre logique. Mais il n'est pas impossible que sous-jacente à toute cette séquence se trouve une source traitant des sacerdoces anciens, car les questions 62 et 63 sont consacrées aux fessio et au rex sacrorum, un prêtre romain, la 66e au cirque Flaminius, la 67e au licteur, la 68e au luperque. Nous proposons de considérer que la 66e question est elle aussi en relation avec ce contexte sacerdotal par l'association linguistique Flamines Flaminius, qui est une des interprétations possibles, et que la 67e concerne en fait des licteurs particuliers, les Flamini Lictores, les licteurs de Flamine. Quoi qu'il en soit, la 68e question introduit une digression sur le Septimontium, une fête de Rome, question 69, sur les chars, 70, et sur les bœufs de trait, 71, avant que nous le revenions à la 72e question, aux lampes et aux augures. La 73e question porte sur les imperfections physiques dont les augures doivent être exempts, et la 74e sur la fortuna brevis, la petite fortuna, et ce qu'on peut appeler le défaut social du roi Servius Tullius, lié à cette fortune courte, avant que le texte ne revienne à la lampe dans la question 75. Il y a encore une autre connexion plus profonde entre ces questions, comme nous le verrons dans les prochaines fois, mais on peut conclure dès à présent que la séquence des questions 62 à 75 est sans doute fondée sur une source malheureusement inconnue, peut-être Varron ou le dictionnaire de Verrius Flaccus, qui portait sur les règles imposées aux Flamines de Jupiter ou aux autres prêtres archaïques du même genre. Les questions sur le calendrier que je viens d'évoquer aussi comme exemple de lien thématique peuvent bien entendu aussi être tirées d'une même source. Ces considérations nous permettent par conséquent de conclure que les questions romaines se présentent comme un livre composé avec le même soin que les autres traités ou dialogues de Plutarque. Les questions ne sont pas un ensemble désorganisé de fiches. Il existait entre elles une série de liens thématiques, fortuits ou non, dérivant d'une même source ou non, qui introduisent des digressions et plus généralement la suite du raisonnement. Dans cette construction, l'étonnant réside dans le fait que beaucoup de liens demeurent implicites, alors qu'ils sont de toute évidence recherchés consciemment par Plutarque. Dans le cas où l'auteur suit une même source, ce lien sous-jacent implicite est bien compréhensible. L'auteur décompose seulement un texte en deux arguments différents qui se font suite. Dans la mesure où il s'agit généralement du même thème, la liaison est aisément perçue. Mais que dire des séquences déterminées par le calendrier ? Il s'agit manifestement de constructions volontaires et parfaitement implicites. Les questions comportent un certain nombre de digressions, comme je viens de le dire. Revenons à la question 75. Le thème de la lampe et de la lumière permet l'ouverture d'une parenthèse sur les petites lunules, les petites lunes que les sénateurs portaient sur leurs chaussures et sur les interprétations qui se réfèrent au soleil et à la lune. Cette digression continue dans la question 76, dans laquelle Plutarque demande pourquoi l'année appartient à Jupiter et le mois à Junon. La réponse donnée se réfère au soleil et à la lune. Après cette digression, Plutarque revient à la science augurale, déjà présente dans les questions 72 et 73. On a déjà cité une digression qui met en scène à la question 67 les licteurs et qui cite Romulus dans ce texte. C'est vraisemblablement ce dernier qui conduit chez Plutarque ou dans la source sous-jacente au Luperque qui court à travers la ville. Le contexte romulien archaïque et l'absence de déplacement durant la fête du Septimontium, qui constitue l'objet de la question suivante, font écho en quelque sorte au thème de la course des Luperques. Les chars et les animaux de trait immobilisés en ce jour fournissent encore la matière des questions 70 et 71, dont la première porte sur les fourches des attelages et le supplice de la fourche, la seconde sur les bœufs agressifs, avant que Plutarque ne conclue la digression. Il est difficile de dénier à cette architecture la cohérence et le raffinement. Nous avons vu que les liens entre questions peuvent être fortuits et reprendre n'importe quel élément de la question précédente, conformément à l'habitude des érudits de faire flèche de tout bois au cours de leurs interprétations. Mais dans les questions romaines, il ne s'agit jamais de saut du coq à l'âne. La transition se réfère toujours à un élément de la discussion implicite qui se développe. Pour donner encore quelques exemples de ce type de lien, examinons la question 51e portant sur les chiens des lares Praestites, chiens qui reviendront dans la question 72 sur une déesse Genitamana, pratiquement inconnue alors que les lares n'ont rien à voir avec cette déesse. Ou bien la question 85 qui concerne le statut des matrones romaines en relation avec la guerre contre les Sabins. Ce thème conduit à la question 86 sur l'interdiction de se marier en mai et à la question 87 qui évoque la coutume de séparer les cheveux des mariés avec une pointe de lance. La question suivante qui demande pourquoi le budget des jeux s'appelle Lucar n'est apparemment pas du tout lié à la précédente. Mais à y regarder de plus près, on saisit tout de suite l'élément qui a déclenché, en quelque sorte, la question sur le Lucar. À la question 85, on en était aux matrones et au mariage. Or, dans la réponse à cette question, Plutarque évoque les Sabines. Son raisonnement en partie implicite est le suivant. L'origine des matrones romaines est en fait l'histoire des Sabines, c'est-à-dire celle de l'enlèvement des Sabines. Or, comme celui-ci s'était produit au cirque, le lien avec le Lucar, le budget des jeux de cirque, était possible. Et tout Romain, un tant soit peu cultivé, était capable de saisir cette connexion.
C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec John Shade. Réalisation Thomas Luther. Présentation Christine Goémé.
gentlemen, this is the act where we put Nadine in the suitcase. We must prepare the body.
France Culture présente Rain, comme une pluie dans tes yeux, le nouveau spectacle du cirque Éloise au théâtre du Trianon à Paris du 28 mars au 21 mai.
The suitcase. No.
Emblématique du nouveau cirque contemporain, cette troupe québécoise propose un moment de théâtre acrobatique et poétique en abordant la thématique des émotions et des souvenirs liés à l'enfance. Oui, une création mise en scène par Daniel Finzi-Pasca pour le cirque Éloise, du 28 mars au 21 mai, avec France Culture. Un événement présenté dans le cadre de Francophonie, le festival francophone en France. Pour sa première édition, le prix France Culture Télérama du livre est décerné à François Bégaudeau pour Entre les murs. Paru en janvier, ce roman s'inspire de l'ordinaire tragicomique d'un professeur de français. Entre les murs, François Bégaudeau, prix France Culture Télérama 2006.
Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer.
Vous êtes sur France Culture.
Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la nouvelle fabrique de l'histoire se consacre cette semaine aux luttes étudiantes, les étudiants et le pouvoir. Ce matin, mémoire individuelle avec Jean Courdouin, ancien membre du bureau de l'UNEF en 1963. 10h, le temps des humanités s'ouvre sur les lundis de l'histoire et aujourd'hui les questions de l'immigration dans les campagnes françaises, livre de Romuald Hubscher, qui sera l'invité de l'émission avec Gilles Pécou, professeur à l'école normale supérieure, et Jean-Rémy, écrivain. 11h, fiction, feuilleton, grande et petite histoire de la comédie française, Le siècle des Lumières par Maurice Levers, 36e épisode. 11h30, les chemins de la connaissance, du révisionnisme au négationnisme, font retour toute cette semaine sur l'histoire et le sens de cette perversion historiographique dont les thèses furent énoncées en 1978 par Robert Fourisson. Invité ce matin, Florent Braillard, chercheur à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Et tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture. Il est 6h58 au programme de cette matinée du 27 mars 2006, lundi 27 mars 2006. À 7h20, les enjeux internationaux au moment où Juan Carlos, roi d'Espagne, entame une visite en France. Réflexion sur les priorités de la politique étrangère espagnole. Puis à 7h40, invité de l'émission, le ministre de la Culture, Renaud Donne-Dieu de Vabre. L'actualité politique et sociale de ces derniers jours dans le dossier du CPE a éclipsé une nouvelle pourtant importante qui touche à l'exception culturelle à la française. Elle se voit consolidée depuis mercredi dernier avec la décision de la Commission européenne d'autoriser jusqu'en 2011 l'ensemble des aides au cinéma et à l'audiovisuel en France. C'est un dossier très technique qui a donc trouvé la semaine dernière un dénouement heureux après 10 ans de négociations. L'enjeu politique est le suivant, il est simple, il s'agit tout bêtement, je dirais, de reconnaître que la culture, en l'occurrence les films, ne sont pas des biens marchands comme les autres et qu'à ce titre, les financements ne peuvent être considérés comme des moyens détournés de fausser les sacrés sainte loi du marché. On va donc en parler avec Renaud Donne-Dieu de Vabre. On abordera des sujets qui arrivent également dans l'actualité cette semaine. Un temps fort dans la négociation sur le statut des intermittents. Près de 3 ans après le début du mouvement, la situation semble totalement bloquée. On parlera aussi de la loi sur les droits d'auteur qui a enfin été adoptée à l'Assemblée nationale. Mais il y a encore un an de débats et de procédures diverses avant qu'elle n'entre en application. Et autres sujets libres, notamment le CPE, ce qui se passe en France aujourd'hui avec la jeunesse, mais pas seulement. Sujet libre donc dans la dernière partie de l'émission. Voilà pour le programme, il est 7h. Première édition du journal, Jean-Louis Crimon.
Bonjour, semaine décisive pour les uns, semaine fatidique pour les autres et sans aucun doute en ce lundi, c'est la journée de demain mardi qui est déjà dans tous les esprits. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, François Hollande, estime que la seule solution, c'est le retour du CPE devant le Parlement. Vous l'entendrez dans cette édition, ainsi que l'analyse de Jean-Claude Pajac. Le 33e congrès du PCF conforte Marie-Georges Buffet et sa stratégie pour 2007, à savoir fédérer la gauche anti-libérale libérale, longuement ovationnée par les quelques 900 congressistes du Bourget, la secrétaire nationale du Parti communiste a été réélue dimanche par plus de 91% des voix. La votation de Saint-Denis, les deux tiers des Dionysiens ayant participé dimanche au référendum local sur le droit de vote et d'éligibilité des étrangers, se sont déclarés favorables, 64,11% pour le oui, pour une participation de l'ordre de 31%. Reportage dans ce journal Alexis Pluyette. Dans ce journal également, nous reviendrons également donc sur les élections législatives en Ukraine. Résultat serré, possibilité même d'une grande coalition bleu-orange. C'est ce que nous dira Andrei Kourkov, président de l'Union des écrivains d'Ukraine. Enfin, avec Frédéric Barrère, nous irons en Israël pour essayer de mesurer l'enjeu pour Kadima des législatives qui auront lieu demain. En ce lundi, tout se passe comme si tout le monde n'aspirait qu'à être déjà mardi et d'une certaine manière, on est déjà demain. Nos confrères de la presse écrite sont unanimes à titrer sur une semaine décisive et sur le mardi noir attendu. La semaine fatidique pour le Figaro, la semaine qui peut tout changer pour le Parisien. Et même les Échos soulignent situation bloquée sur le CPE avant le mardi noir attendu. C'est vrai que le conflit dure maintenant depuis plus de deux mois et qu'à chaque journée d'action, la mobilisation prend une nouvelle ampleur. C'est vrai aussi que loin de dénouer la crise, les rendez-vous de vendredi et de samedi à Matignon avec les organisations syndicales des salariés ou des étudiants n'ont débouché sur rien de concret. Au point que Nicolas Sarkozy, qui présentera ce soir à Douai ses propositions dans le domaine de la justice sociale, a appelé samedi à un compromis sur le contrat première embauche, alors qu'à gauche, on estime que le retour du CPE devant le Parlement est inévitable. C'est le point de vue affirmé du patron du Parti Socialiste, François Hollande.
Mais comment va-t-on faire comprendre aux jeunes et aux salariés de notre pays qui sont en mouvement depuis maintenant un mois qu'il sera possible de changer le CPE sans revenir au Parlement pour en supprimer les aspects les plus contestables, c'est-à-dire le fait qu'on puisse licencier sans motif et à tout moment un salarié de moins de 26 ans. Donc si Dominique de Villepin veut être finalement ouvert, s'il veut être sincère, s'il veut être convaincant, il n'a qu'un mot à dire, changeons la loi, puisqu'elle n'est pas encore d'ailleurs promulguée, faisons en sorte que le Parlement remette en cause le CPE et que l'on en revienne à cette règle simple, que pour un jeune comme pour un moins jeune, l'entrée sur le marché du travail, ça doit être un contrat à durée indéterminée. Donc à partir de là, je souhaite que mardi, il y ait un mouvement très fort et qu'on en finisse, qu'au moins mercredi, il retire le CPE.
François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste, des propos recueillis par Alexis Pluyette. Conséquence de la journée nationale de grève et de manifestation de demain contre le CPE, la SNCF a annoncé dès hier soir qu'il fallait s'attendre mardi à 2 TGV sur 3, 2 Corail sur 3 également et 50% du trafic en moyenne en Ile-de-France. De son côté, la RATP annonce 1 métro sur 2 et pour le RER, 2 trains sur 5 sur la ligne A et 1 sur 4 pour la ligne B. Sur le plan politique, la journée nationale de grève de demain, les stratégies bien sûr s'affrontent et les enjeux sont plus que jamais déterminants. Analyse Jean-Claude Pajac.
Dominique de Villepin n'a pas renoncé à séduire par sa fermeté l'électorat de droite. Pour cela, il a besoin d'une mobilisation en reflux, surtout si en plus elle dégénère dans la violence et la confusion. Si c'est le cas, il appliquera à coup sûr le CPE avec l'espoir que dans 6 mois, un recul significatif du chômage lui permette de l'emporter dans la seule bataille qui compte vraiment pour lui, celle qui l'oppose à Nicolas Sarkozy. Les syndicats et les partis de gauche font le raisonnement inverse et s'apprêtent à jeter toutes leurs forces dans cette journée de grève demain. Elle pourrait être plutôt bien suivie dans les transports et la fonction publique, moins dans le privé, mais elle devrait constituer un pic dans une mobilisation qui a su à chaque étape élargir son audience dans la plus stricte unité syndicale. Pour les syndicats, il s'agit demain de frapper un grand coup, mais dans la clarté vis-à-vis de l'opinion publique, pour que cette dynamique l'emporte sur les risques bien réels de pourrissement, la violence et les casseurs, les provocations policières et les débordements de l'extrême gauche, le débat sur le blocage des facs. Pour les syndicats aussi, cette semaine s'annonce lourde de dangers qu'il leur faudra